This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversé. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la troisième saison de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Un 65e épisode pour vous rendre la rentrée plus pourrie encore en vous signalant que non, l'été, il n'y a pas rien à la télé et que oui, il y a de bonnes séries et qu'il vous reste à peu près zéro jour pour toutes les rattraper avant de devoir attaquer la rentrée. Comment on va faire ça? Eh bien, comme d'habitude, en 30 minutes chrono, 35 si on est d'humeur généreuse et évidemment dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Pierre Langlais de Télérama au service cette semaine et pour renvoyer la balle façon Serena Williams ou André Agassi pour les vieux comme moi, Émilie Semiramoth de Vanity Fair. Salut Émilie.
Salut.
Éric Bouche de Téléstar. Bonjour Éric.
Salut Pierre.
Et Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Hello Jean-Maxime.
Hello.
Au menu, un petit tour des séries marquantes de l'été, essentiellement des productions américaines, mais pas que, de Sharp Objects à Jack Ryan en passant par Castle Rock. Et si, un si grand soleil, le titre estival de l'été, alors c'était bien ou c'était nul? Avec un peu de chance, on ne sera pas d'accord. Un épisode et j'arrête, saison 3, épisode 1, c'est parti.
Wind Gap. There was a murder there. Another one's missing now. Get me a story.
Mama, goodness, I didn't expect you. The house is not up to par for visitors.
I'm just in town on business.
Camille, look at you. I'm glad you're home.
What kind of person does that? Hurt a child.
Doesn't help anything. Riling folks up.
You got two mutilated girls on your hands. Someone else is doing the riling.
When you're here, you're my daughter. Everything you do comes back on me.
Et on commence avec ce qui était indiscutablement l'événement critique du début de vacances, une série légère et joyeuse, baignée de soleil, noyée dans le son apaisant des grillons, Sharp Objects, plus sérieusement, un drame psychologique difficile, adapté d'un roman de Gillian Flynn, l'auteur de Gone Girl, et mis en scène par le Canadien Jean-Marc Vallée, avec Amy Adams dans le rôle d'une journaliste qui retourne dans la ville de son enfance pour mener l'enquête sur un double meurtre et se prend à nouveau dans la toile de sa mère toxique, incarnée par Patricia Clarkson. Disons-le tout court, ça sent la Cannes Emmy Awards à pleine narine, mais je sais que certains autour de cette table n'ont pas du tout, mais pas du tout aimé, ou moins aimé en tout cas. Quelles sont les opinions, chers amis, qui veut servir? Eric, voilà. C'est parti.
C'est vrai que c'était très attendu. Moi, j'ai beaucoup aimé le début, la représentation de la petite ville du Sud, complètement barrée, où on célèbre encore des fêtes confédérées tous les ans. C'est assez hallucinant. La famille qui est plus flippante que la famille de Massacre à la tronçonneuse même, avec la mère qui est assez hallucinante. Et l'intrigue policière qui, au début, vraiment, je me suis dit, ça va être peut-être un mélange entre True Detective et Three Billboards. C'était très très alléchant et puis patatras, c'est-à-dire qu'il se n'intéresse plus du tout à l'intrigue policière, mais complètement.
On s'en fout un peu, non?
Ah bah au départ ouais. non, on s'en fout pas. Normalement c'est une série policière. Lui il s'en fout complètement, le scénariste. En effet, il te le résout en deux secondes.
Là c'est Martin Oxon d'ailleurs.
Voilà. Exactement. Il s'en fout complètement. Il explique d'ailleurs dans une interview qu'en fait
c'est Martin Oxon.
Elle a pas eu le temps de traiter en 8 épisodes un bouquin qui fait 300 pages. Donc elle a dû lâcher l'intrigue policière parce qu'elle a pas eu le temps.
Et mais quitte à radoter, on s'en fout un peu. C'est pas le plus intéressant, non?
On s'en fout un peu par la force des choses. C'est-à-dire que, en effet, elle préfère passer. Il y a des épisodes où il se passe quasiment rien. On a des scènes qui sont répétées. C'est d'une lourdeur absolue. C'est-à-dire que on comprend qu'elle est mal dans sa peau, qu'elle se scarifie, etc. Et il y a des difficultés avec sa sœur. Et on revoit les mêmes scènes d'épisode en épisode avec sa sœur, avec sa mère.
Mais c'est ça qui est fort, non? C'est écrasant. Ça nous oppresse. On est pris dans cette boucle. Elle est prisonnière de ses angoisses et de son passé, cette femme. Et
le problème, c'est qu'il n'y a aucune subtilité. C'est-à-dire que c'est d'une lourdeur. Ça, tout pèse 3 tonnes. Quoi.
Tu n'as pas l'air d'accord, Émilie.
Non, pas du tout. Moi, c'est ma série déprimante préférée de l'été. Et je dirais que les meilleures séries policières sont celles qui ne s'intéressent pas au crime et qui s'intéressent plutôt à la psychologie des personnages.
Parce que t'es le 4 détective aussi. L'intrigue de True Detective, on s'en foutait un peu.
On s'en fout. Et puis, quand on voit en plus le final, le tueur l'histoire de Trou Détective, c'est tellement
on s'en fout un peu
qu'on
aussi.
S'en fout. Donc là, en l'occurrence, moi, j'étais littéralement fascinée par le personnage de Camille, qui est vraiment un personnage complexe. On a une belle représentation d'une héroïne qui est amochée, qui a des troubles mentaux, enfin des troubles psychologiques, qui a fait des séjours en hôpital psychiatrique, qui a en tout cas un comportement très destructeur. Et je trouve que c'est un personnage qui est hyper crédible et qui est en même temps positif dans la mesure où elle se bat, où elle se reconstruit et d'une certaine manière elle s'en sort.
Il n'y a qu'un truc qui n'est pas crédible, c'est qu'elle est journaliste et qu'elle ne prend jamais de notes.
Et oui, ça, et voilà. Qu'elle a une mémoire.
Bon, qu'elle a une super mémoire. Mais effectivement, Jean-Maxime, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est plusieurs genres à la fois, mais c'est à la fois un drame familial, pour être simplement, un thriller psychologique. Et moi, je suis pas loin de penser que c'est un film d'horreur. C'est-à-dire que c'est un peu une maison hantée dans laquelle on se trouve.
Oui, effectivement, mais moi non plus, j'ai pas du tout été convaincu par cette série, donc je dois dire que j'ai
on
bien
est
aimé.
Deux contre deux, ça va.
Pour moi, tout est dans l'ambiance. Tu parles de film d'horreur, oui, il y a un peu de ça. Tout est dans l'ambiance, mais rien dans le scénario. L'enquête policière, pour moi, il faut qu'elle soit traitée d'une manière ou d'une autre. Sinon, il y en a pas du tout. On parle d'autre chose. Et un film de deux heures aurait bien suffi. Et toutes ces scènes qui reviennent sans arrêt, enfin, on n'a pas besoin de ça. Le montage à la Wild que Jean-Marc Vallée avait déjà utilisé donc dans ce film avec Reese Witherspoon,
Et dans Big Little Lies aussi.
Oui, un peu moins quand même. C'était moins systématique. Ça marche sur deux heures, mais ça marche pas sur huit épisodes d'une heure.
Moi, je trouve au contraire, ça fonctionne hyper bien parce que ça te permet vraiment d'entrer dans la tête de l'héroïne et de comprendre son mode de fonctionnement, sa vision des choses, son passé traumatique et justement la résolution du crime. Qui est bazardé littéralement à la fin du dernier épisode dans la scène post-crédit, ça signifie réellement qu'il s'en fout clairement de l'intrigue policière et que ce qui compte c'est vraiment le parcours psychologique du personnage. C'est ça que moi j'ai adoré.
On le comprend assez rapidement son parcours psychologique, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 épisodes on a compris le personnage.
Mais c'est pas de comprendre, c'est de le résoudre.
Oui,
c'est ça qui est intéressant, c'est comment
oui,
elle va.
C'est une enquête sur elle-même.
Sur elle-même.
En fait.
Oui, 8 épisodes, c'était vraiment trop pour ça. Aussi peu, je trouve.
Je trouve pas du tout. Je trouve que c'est une super représentation sur la toxicité féminine. Qui a, via le film Hellgaze en plus, donc ça donne vraiment une représentation qui est assez presque inédite, je trouve, à la télévision. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de voir aussi souvent et je trouve que c'est parfaitement déployé. Effectivement, ça prend son temps, il y a des redites, mais en même temps, c'est logique aussi, c'est réaliste, je trouve, ces redites-là.
Bah oui. Et puis, c'est une obsession,
et voilà,
c'est une histoire d'une obsession,
exactement.
Elle tourne en rond, donc c'est normal. Moi, je peux comprendre qu'on puisse s'ennuyer. En fait, je pense que c'est une série où il fallait rentrer dedans, c'est-à-dire qu'il fallait être aspiré et la mise en scène de Jean-Marc Vallée en ce sens est admirable. Il y a un travail démentiel de montage sur ces flashs, etc. Moi, normalement, le flashback, par définition, ça et le ralenti, j'éteins la téloche. Je dis, je ne veux pas de ces choses-là. Et là, il y a une utilisation du flash qui est très intelligente, qui n'est pas un truc pour se la toucher visuellement.
Voilà, c'est presque sublime. Dans le cerveau pour
moi, c'est une série de fantômes presque. Ouais. Ces filles qui passent en roller. Là, il y a quelque chose de très. Enfin voilà. Après, on peut
ça
trouver ça prétentieux.
Mais
c'est un peu prétentieux, mais ça fonctionnerait très bien sur 2-3 heures.
Voilà.
Mais le problème, c'est que là, sur 8 heures, c'est-à-dire que on a compris ses problèmes avec sa mère dès le départ. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes scènes systématiquement de repas avec sa sœur qui est bizarroïde. On te répète.
C'est ça qui devient angoissant, c'est la durée, justement.
C'est la durée. En plus, je trouve que, pour le coup, le mode de diffusion hebdomadaire, classique, à l'ancienne, marche mieux. Parce que si tu binges la série, effectivement, là, c'est imbitable, pour le coup.
Imbingeable.
Et imbingeable, effectivement.
En effet, il aurait pu continuer pendant 15 épisodes à te refaire la même chose.
Ouais. Je trouve que c'est une série qui t'habite après avoir vu l'épisode. Ça t'imprègne. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a imprégné. C'est resté avec moi pendant un bon bout de temps, quoi.
On est donc partagé autour de la table. Faites-vous votre propre opinion. C'est pratique. Sharp Objects est disponible sur OCS Go. C'est le site de rattrapage d'OCS. Sharp Objects était donc sur HBO aux États-Unis. Évidemment, ça serait étonnant de ne pas voir une petite liste de nominations aux Golden Globes et aux Emmy l'année prochaine, puisqu'elle n'était pas éligible cette année. On change de climat, direction le nord-est des États-Unis. Et Castle Rock, petite bourgade grise et accessoirement possiblement maudite, au cœur de l'œuvre de Stephen King, Castle Rock, sorte de série patchwork ambitionnée d'inventer des histoires dans le monde de King en reprenant certains de ses personnages et certains détails de ses intrigues. Un projet produit par J.J. Abrams, désormais bras droit télévisuel du King. Très attendu au tournant, pour le meilleur ou pour le pire, la saison n'est pas encore complètement finie, mais suffisamment avancée pour un avis assez ferme. Quel est le vôtre, chers amis? Jean-Maxime.
C'est un bon concept marketing, cette idée d'utiliser cette ville mythique des œuvres de Stephen King. Mais j'ai l'impression qu'ils ont eu que le concept. Ils ont créé des personnages à partir de là, avec de bons acteurs, certes, mais qui sont pas vraiment introduits correctement. On comprend rien, en fait. Très, très vite, on se perd dans des histoires. En fait, tout le temps, je me demandais, mais quel est le mystère? Quelle est la question que je suis censé me poser? Et je comprenais pas. Et au bout de 8 épisodes, c'est le nombre que j'ai vu actuellement, je sais toujours pas ce qu'on veut me raconter. Donc l'atmosphère est super, comme dans Sharp Object, il y a plein de choses, la réal est très bien, mais il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de scénario.
Émilie,
je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas une ligne directrice, on t'amène pas d'un point A à un point B, mais à la limite, moi, c'est presque ça que j'aime dans cette série, parce que c'est vraiment la série d'ambiance. On va te recréer un climat, un contexte à la King, c'est la série anxiogène au possible, et je trouve que la narration s'organise de manière à étouffer de plus en plus et les personnages et le spectateur avec un récit effectivement qui avance très très peu, qui avance en tout cas très très lentement, mais je trouve que ça, c'est vraiment la série, voilà, d'ambiance, d'atmosphère qui il faut se laisser happer ou pas, c'est un peu comme le
ou pas.
Ou pas.
Ouais. Moi personnellement ou pas. Alors le problème c'est que j'ai bien aimé les premiers épisodes parce que je me suis dit ah ils ont capté là on est chez King. Il y a pas de problème en plus super acteurs. Alors ah, André Christy, Hollande, incroyable. Mélanie Lindsay, Sissy Spacek, Scott Glenn. Enfin voilà il y a du bon monde. Voilà.
Ouais.
Alors moi je supporte pas. Je trouve qu'il prend juste l'air dark. On dirait un émo machin.
Ce garçon, il est fait pour jouer
oui,
dans
je
les
sais,
dans
sauf
les
qu'en fait
King.
Quelqu'un de flippant, ça faut pas le faire jouer un mec flippant qui bouge pas comme ça. Sinon je trouve c'est sans intérêt. Bref le truc c'est qu'en fait, c'est une série molle qui nous met des coups de speed de temps en temps avec « Allez, que je te bute X personnages et que je te fais un truc choc, etc. » Et derrière, ça retombe et on s'emmerde. Et du coup, je suis comme Jean-Maxime, je n'ai pas lâché, hein, je regarde. Mais je suis là à faire « Putain, mais pourquoi c'est ça te barbera ? Tu sais pas pourquoi tu regardes ça, quoi. » Il y a un moment où tu sais plus exactement pourquoi tu regardes. Peut-être parce que c'est vrai que c'est pas vilain et que les acteurs sont bons. Mais honnêtement, moi,
incroyable.
Autour de moi, il y a que les fans de Stephen King qui sont de mauvaise foi, qui font « Ouais, c'est super !» et tout. J'ai quand même l'impression que on commence tous à se faire un petit peu chier. Alors, c'est une anthologie, donc il y aura une saison 2, donc j'espère.
Je trouve que ça remonte, au contraire. Moi, j'en suis au 7, j'ai pas vu le 8, mais je trouve le 7ème épisode magnifique.
Oui, c'est du sous Leftovers, quoi. C'est pas mal foutu.
Non, toi, tu auras même tout à Leftovers. Non, le problème, c'est qu'en fait, il y a eu Stranger Things avant, qui était, comme tu disais, un patchwork, qui était déjà un patchwork de King. Donc, on compare un peu à Stranger Things, qui en effet est plus attirant au premier regard. Là, ça prend plus son temps, c'est plus une série d'ambiance. Surtout que là, ça a la caution King, vu qu'il est coproducteur, etc. On pensait que ce serait la réponse du berger à la bergère, que ce serait plus fort que Stranger Things, alors qu'en fait, c'est plus lent. Maintenant, moi, je trouve qu'il y a, pour le coup, il y a une vraie ambiance. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que l'ambiance est chouette.
Il y a une belle unité de lieu, c'est-à-dire qu'on sent bien la ville, quoi. Ça, pour le coup, je suis d'accord.
Et la relation entre le personnage de Scott Glenn et Sissy Spacek, je trouve, est magnifique.
Ouais. Le
7ème épisode, m'a bouleversé, vraiment. Et voilà, non, c'est sûr qu'il y a un problème de rythme. Ça,
promis, chers auditeurs, on n'a pas fait exprès d'être à deux contre deux à chaque fois. Hein. ça va pas durer.
Non, mais de voir certains acteurs, Sissy Spacek, ça faisait un peu des lustres qu'on l'avait pas vu à l'écran. Et là, je trouve qu'elle fait vraiment elle livre une composition, mais qui est bluffante.
Mais ils sont tous très bons, sauf Skarsgård, ce qui me gonfle. Mais mis à part ça.
Et André Hollande aussi. On a rarement vu un personnage plus crispé que lui. Et en même temps, tu rentres en empathie avec. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité dans cette série.
Je trouve que ça aurait pu être une super série, mais que ça manque d'intensité dramatique, justement. Ça, oui. Je demande pas ce qu'il y ait des... Justement, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'il y a des twists, il y a des retournements, mais c'est pas ça que je demande. Je trouve que ça manque de direction, c'est ce que tu disais, Jean-Maxime.
Le personnage principal, c'est la ville, en fait. C'est pas tellement les personnages humains, c'est, c'est la ville
si,
qui...
Il y a un personnage principal qui est en effet le jeune... qui autour de lui va influencer tout le monde, c'est lui le personnage principal. Et autour de ce personnage, Stephen King fait souvent ça dans ses romans, il y a un personnage maléfique central qui va faire influencer en fait tout son entourage qui à ses côtés vont basculer en fait dans une espèce d'horreur. Et donc on voit en effet tous ces personnages qui gravitent autour de lui et qui vont progressivement basculer.
Jean-Maxime, un dernier mot ?
Oui, juste, il faut mieux regarder Mr. Mercedes dans l'univers de Stephen King où on a l'atmosphère, le respect de l'œuvre et aussi quelque chose qui avance vraiment.
Et des personnages qui s'épaississent beaucoup plus. Ouais. Moi, je trouve que les personnages de Castle Rock ont du mal à prendre de la profondeur. Enfin, voilà. Encore une fois, on est divisé. Allez-vous faire votre avis, ça va être bientôt possible en France. Castle Rock est sur Hulu aux États-Unis et elle sera diffusée prochainement sur Canal+ en France.
Where's Patty?
Right here.
Having my jaw wired shut lost me more than just my summer vacation.
Oh, this is like every great high school movie ever made.
Now, I could be the former fatty who turned into a brain. Or an athlete.
or a princess?
No, I'd rather have revenge.
On glisse sur Netflix avec en quelque sorte l'anti-Sharp Objects. La série d'HBO a fait quasiment l'unanimité, en tout cas pas ici, mais au niveau de la critique, ça a quand même été très chaudement accueilli. Insatiable, c'est celle qu'on vient d'entendre. Elle s'est fait démolir comme rarement une série dans l'histoire du petit écran américain. Même Criminal Minds Without Border a une meilleure note sur Metacritic. Je crois que ça s'appelait comme ça, hein, ce truc qu'on a tous oublié, où les Américains l'expliquaient au reste du monde qu'est-ce que c'était qu'un criminel. Donc, accusé de grossophobie, comme on dit, jugé vulgaire, gratuite, moche et bête, entre autres qualificatifs amicaux, cette comédie vache sur la revanche d'une lycéenne devenue mince a pris très très cher. Ce chamboule tout critique était-il légitime, chers amis ? Émilie.
Je trouve que en tout cas le procès en amont qu'on a fait avant que la série ne sorte, juste en regardant le trailer, est juste ridicule.
Hein, on est d'accord.
On est d'accord sur le fait qu'on va regarder avant de se faire un avis. Bon, effectivement, après avoir vu 5 épisodes en poussant vraiment la torture jusqu'au bout, c'était...
Sans alcool, sans drogue, tout ça,
t'as sans rien, à jeun. C'était terrible. Et c'était, oui, voilà, bon, c'est terriblement mauvais. C'est, je pense, la série pathétique de l'été. C'est raté. Je pense pas que, enfin, c'est la satire, le genre à mon avis qui passe à côté, qui est raté, qui est vulgaire en plus, voilà. Après, je pense que ce procès en grossophobie qu'on adresse à la série n'est pas tout à fait justifié. C'est certes pas fin, c'est pas subtil dans le traitement, mais c'est vraiment pas, je pense, son défaut principal. Et ce n'est même pas l'objet, parce que d'ailleurs la série se plaît à répéter à plusieurs reprises que ce n'est pas l'extérieur qui compte, mais l'intérieur. On est tous d'accord là-dessus. Simplement, il y a un raté, en fait, dans le portrait du personnage principal, qui est une sociopathe, qui est une fille, une odieuse jeune fille, qui est passée...
J'aime comme tu parles poliment.
Oui, voilà, oui, odieuse garce, qui est passée, effectivement, d'une ancienne jeune fille ronde à une miss de concours de beauté. C'est pas parce qu'elle est devenue mince qu'elle est devenue belle. Ça, on est tous d'accord là-dessus, mais simplement, oui, son personnage est abject et ça n'a rien à voir avec l'histoire de grossophobie dont on parlait avant.
Eric,
Metacritic est un peu injuste, c'est quand même moins mauvais que Beyond Borders, c'est quand même moins malsain que Beyond Borders. Grossophobie, c'était ridicule quand on voit la série. Le problème, c'est que toutes ces critiques, ces notes, on se demande de quelle mesure ils n'ont pas été influencés par cette campagne. Maintenant, la série, c'est vrai qu'elle n'est pas bonne. Moi, je trouve surtout que justement, elle ne va pas assez loin. C'est-à-dire que elle devrait être beaucoup plus trash. Là, finalement, elle est très propre. Il y a quelques...
Elle pique les yeux quand même. Hein.
Oui, mais je veux dire, elle va pas assez loin. Elle est trop proprette finalement. Elle fait un peu vieillotte. On a l'impression que c'est une série qui date d'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années.
Vous souvenez de Good Christian Bitches ?
Oui.
Tout le monde a oublié ça. Ah non, je pouvais pas supporter ce truc-là. Ça a vite été annulé. Mais c'est oui. En fait, j'ai l'impression que c'est une mauvaise série. C'est pas une série scandaleuse.
Oui.
C'est du sourd Ryan Murphy en plus. C'est vraiment dans l'esprit de ce qu'il a pu faire avec Glee ou même Popular avant, mais en raté et en pas moderne du tout.
Et en plus hystérique encore. Hein. Là, ça fait quand même mal aux oreilles. Enfin, c'est... Ouais.
Et c'est dommage qu'il y ait ce personnage principal qui est complètement raté par ailleurs, parce que je trouve que le personnage de Dallas Roberts il est tellement too much que ça en devient drôle pour le coup.
Ouais, j'avais de la peine pour lui quand même. C'est quand même un plutôt bon acteur.
C'est un bon acteur.
Enfin,
oui,
la partition qu'ils lui font jouer, c'est tragique.
Il joue sur un fil hein, tout le temps.
Ouais, non, mais c'est moi en fait le problème, c'est ça. Après, il y a des fans. Hein. La série a pris très cher par la critique. Ma critique a pris très cher par les fans. Hein.
Mais comme toujours, quand quelque chose est autant critiqué, il y a forcément des gens qui vont débarquer, qui ne sait pas d'où ils sortent, mais qui vont adorer la chose.
Voilà. Après, je pense effectivement qu'il y a eu un procès qui a été trop vite fait. Je pense qu'on a donc il y a une obsession de la critique et moi sans doute le premier pour aller se dire ok, allons chercher les poux à cette série et voyons ce qui ne fonctionne pas. Et en fait, le truc c'est que c'est tellement moche, c'est tellement bête, c'est quand même assez bête comme série. J'ai aussi une pensée pour Alyssa Milano, c'est tragique. Et évidemment, il y a un moment en fait où on ne peut rien dire de positif, sauf peut-être. En fait, ça aurait pu être bien, ça aurait pu être politiquement incorrect. Et puis même, il faut jouer avec le politiquement incorrect. Moi, ça me gêne pas, des fois, d'être à limite. Et une série qui dirait des trucs où on ferait « mais c'est quoi cette saloperie ?» ça me gêne pas. Mais une série qui serait grossophobe, entre guillemets, si elle le fait intelligemment, que c'est un truc... Tous les phobes du monde, why not ?
Oui,
mais il faut que ça soit intelligent.
Quand
et là,
tu
c'est
vois
pas
ce qu'elle s'est pris avant même, si tu veux, avant même la diffusion, tu te dis, et pourtant il n'y a rien quoi, dans la série, il n'y a vraiment rien. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été un poil plus poussé quoi ?
C'est assez intéressant parce qu'il y a une série donc, qui a toujours pas été diffusée qui s'appelle Heathers, qui a été déprogrammée de la chaîne qui devait la diffuser parce qu'elle était jugée justement...
Paramount, c'est ça. Hein.
Oui, Paramount ouais. Network, elle allait beaucoup trop loin, etc. Ils essayent de la vendre à une autre chaîne, pour l'instant on l'a pas vue. Et donc ça prouve peut-être aussi que Netflix pouvait pas se permettre d'aller plus loin que ce qu'ils ont fait avec cette série.
En tout cas, vous pouvez vous faire votre opinion en allant voir ou pas Insatiable sur Netflix, où vous pouvez aller chercher le concurrent, ou pouvez, pardon, aller chercher chez le concurrent Amazon Prime Video, la série dont on va parler maintenant. Amazon Prime Video qui a posé une de ses cartes maîtresses sur la table, en tout cas financièrement parlant, ça s'appelle Jack Ryan. Cette déclinaison du héros des romans de Tom Clancy, déjà incarné par 4 acteurs au cinéma dans 5 films, envoie John Krasinski, nouveau chouchou d'Hollywood depuis le carton de son film Sans un bruit, aux trousses d'un terroriste islamiste à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Le tout est orchestré par Carlton Cuse, artisan du scénario surtout connu pour son travail sur Lost. A priori, ça avait l'air sympatoche, efficace et en plus, ça se passe en partie à Paris. Alors, qu'en pensons-nous ?
Bah, si c'est ça la révolution d'Amazon, on est très très mal parti dans le futur.
Si c'est ça la carte maîtresse.
Ouais. Moi, je suis avant tout triste pour Carlton Cuse déjà, parce que il a rien fait de bien depuis Lost. The Strain, c'était une bonne idée.
Oh, Bates Motel, il y a deux trois trucs.
Mauvais, Bates Motel, c'est vrai. Ouais. C'est peut-être l'exception mal, qui confirme la règle, mais c'était lui aussi la version US des Revenants,
oui.
Qui était quand même affreuse. Non, je suis très triste pour lui. J'ai l'impression que finalement, c'était Damon Lindelof,
le cerveau.
Le cerveau de Lost, et pas du tout lui. Mais sinon, oui, c'est juste pas moderne du tout, encore une fois.
Emily ?
Bah, on a un blockbuster classique, comme on en produisait, j'ai l'impression, il y a 25 ans, grosso modo. Ça paraît très daté, vraiment, très années 90. Alors, c'est vrai que, ou 80 d'ailleurs, c'est à cette période-là qu'est né le héros Jack Ryan, pendant la guerre froide. Mais simplement, le monde d'aujourd'hui n'est plus du tout le même. Et les productions télé ne sont plus les mêmes. Alors, la production
c'est très binaire.
Est bien,
hein.
C'est très binaire, voilà. Ouais. C'est les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et puis, c'est vraiment très blanc, noir.
Et ça dure des plombes.
Ça dure des plombes. Il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de nuance.
Oui, pour moi, le problème, c'est pas que ça, c'est daté. C'est Octobre Rouge, La Poursuite d'Octobre Rouge avec Jack Ryan. Le premier, le film est toujours excellent à revoir. Hein. Là, c'est que c'est bête à manger du foin. C'est effroyable. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues. Tu te dis, mais c'est pas possible. On a les Américains qui donnent des leçons aux Français sur l'intégration, etc. Il y a des trucs, mais t'hallucines complètement en regardant. T'as l'impression, des fois, les scènes d'action, que c'est de la mauvaise prod Besson.
Et le problème, c'est qu'ils ont voulu faire, donc, il y a presque un équilibre de temps d'antenne entre le terroriste et Jack Ryan. Et le terroriste, on se dit, ah, c'est intéressant, ils vont quand même ausculter les motivations du mec. En fait, non, c'est juste que sa famille s'est fait tuer. Voilà, on voit ça dans la première scène. Et il te passe des heures à faire des sermons sur comment il faut se venger c'est interminable. Et finalement, on se retrouve avec quoi encore? La même image du terroriste caricatural, avec des chants derrière, avec de la guitare et le Musine qui gueule à la Wakbar derrière. Enfin, moi, j'étais hyper étonné et je suis hyper triste parce que John Krasinski est un super acteur et d'ailleurs, il s'en sort très bien alors que personnage.
Il n'a pas grand chose à jouer.
Wendell Pierce, c'est la coolitude incarnée.
C'est le problème.
Il n'a pas le charisme.
Il le joue
mais
pas.
Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est que je pense qu'il s'est fait piéger, le pauvre John Krasinski, parce qu'il a signé avant que son truc fasse un carton et il est coincé dans Jack Ryan. Ils ont déjà deux saisons.
C'est moi qui fais chier.
Je trouve qu'il est bien dans le rôle, honnêtement,
du petit blanc donneur de leçons poli, propre sur lui.
Ou du guy next door qui se révèle aussi bombasse, parce qu'il y a une transformation physique aussi, on va le noter, de Krasinski. Il y a une trajectoire un peu à la Chris Pratt.
Qui est un copain à lui d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, entre le mec un peu cool, un peu mollasson, gentil, auquel tu fais pas vraiment attention, que tu croises tous les matins sans vraiment lui dire bonjour, et qui se révèle ultra bombasse, super musclé, hyper efficace dans les scènes d'action.
Mais qui reste sympathique,
sans être vantard, sans être arrogant ni rien. Mais bon, voilà, je trouve que le casting est bon. Wendell Pierce est
toujours bon.
Est toujours aussi bon. Le casting, c'est bien, c'est juste le récit, l'histoire, la narration qui est mauvaise.
Le casting français est catastrophique. Hein.
Oui, alors on ne parlera pas du 9-3 dans Paris ou de la Seine-Saint-Denis dans Paris, ni de tout
et
ce qui
va. Et de la scène de l'assaut aussi reconstituée.
C'est très bizarre. Et il y a d'autres scènes qui ressemblent. Il y a une attaque dans une église. Enfin voilà, il y a des choses qui font penser.
Ils ont voulu
s'inspirer de la réalité, mais ils le font de manière assez ratée. On peut dire les choses comme ça. Jack Ryan, saison 1, est disponible sur Amazon Prime Video.
Vous êtes par la présente convié aux épousailles royales du prince Gisbert de Bentwood et de la princesse Bean.
Désirez-vous être prise devant nous tous par cet homme comme épouse?
Non.
Aïe.
C'est effrayant. C'est pas le moment de commencer à cogiter sur tout ça.
un jour j'arriverai à contrôler mon destin.
J'ai envie de découvrir le monde.
Moi, je voudrais savoir quand vos maladies et vos épidémies disparaîtront pour les remplacer par des plus mortelles.
Bill, t'es ingérable.
Avale la paix.
J'ai même plus de quoi te hurler dessus.
Je suis pas si horrible.
T'as quand même tué ce type-là.
Mais je ne vais pas si mal que ça. Il faudrait qu'une bonne âme tire ma tête vers le haut.
Allez, on accélère pour finir cette émission avec deux séries dont on va reparler dans les prochains épisodes de Un épisode et j'arrête. En l'occurrence, de Désenchanté à l'instant, dont on vient d'entendre un extrait, diffusé sur Netflix, qui a été donc la nouvelle série de Matt Groening, qu'il a lancé seulement 3 séries en 30 ans, Matt Groening, sa 3e après Les Simpsons et Futurama, bien sûr. En français, Désenchanté raconte la rébellion d'une princesse alcoolo et clairement pas excitée par l'idée d'épouser un prince fadasse choisi par son roi de père. Réception mitigée outre-Atlantique, donc on en reparlera ça la semaine prochaine. Quelle est la vie quand même autour de cette table sur Désenchanté, Émilie ?
Personnellement, je suis assez déçue. Je savais pas ce que j'attendais de cette série, mais j'attendais quelque chose de neuf, que en tout cas Matt Groening me sorte de ma zone de confort et qu'il sorte lui aussi de sa zone de confort. Et il a fait ni l'un ni l'autre. Je trouve que ça manque de rythme, ça manque de drôlerie, surtout, ce qui est quand même assez embêtant pour une série comique. Je me demande ce qu'il a, s'il a quelque chose à dire. Et au final, je trouve que c'est assez gentillé, c'est assez fadasse, quoi.
Le problème, c'est que les Simpsons, c'était en avance sur son époque, ça dynamitait complètement l'image de la famille américaine. Et là, on a l'impression que c'est en retard. En fait, ça reprend le mouvement féministe en cours de route, etc. On a l'impression que tout est en retard par rapport à l'animation aujourd'hui. C'est le gros défaut. La série, moi, je la trouve pas ignoble. Visuellement, elle est très réussie. Elle n'est pas désagréable. Je pense qu'il y a un problème de marketing, c'est-à-dire que c'est plus une série pour enfants, finalement.
Il y a quand même
plus de 13 ans et plus. Hein.
Ouais, c'est ça, pour ados.
Ouais, enfin, il y a 2-3 blagues un peu graveleuses. Moi, je l'ai vu avec mes petits-neveux, que moi, je me suis fait un peu chier. Eux, ils ont adoré. Donc, je pense que ce n'est pas une série pour adultes, en fait, malgré 2-3 blagues graveleuses, mais que ça peut plaire aux enfants.
Jean-Maxime.
Ouais, j'ai pas été convaincu, mais je précise que je n'aime pas les séries animées et ça ne m'a pas réconcilié avec le genre du tout. Je trouve ça ringard là encore, comme Jack Ryan, comme insatiable. On dirait que Matt Groening n'a pas vu Shrek en fait. Il y a eu Shrek en fait entre les Simpsons et ce qu'il a fait. Ça n'avait pas les mêmes objectifs, mais c'était le même univers finalement. L'héroïne peut y faire penser aussi et ça marche pas du tout.
Je trouve un petit peu sévère avec cette série. Alors évidemment, oui, on aurait, comme disait Émilie, j'aurais préféré que Matt Groening se réinvente et se révolutionne et fasse autre chose. Il fait du Matt Groening, en fait, il fait un truc gentil, bienveillant, avec quelques blagues un petit peu plus risquées et tout.
Et il sait être corrosif, moi je l'attendais là-dessus en fait.
Oui, voilà. Alors après, moi je regarde ça avec plaisir, je trouve que je souris régulièrement, je ris aussi de temps en temps.
J'ai trouvé certains épisodes diablement longs.
Ouais, bon bah écoute, moi j'étais plutôt gentil peut-être avec cette série-là, mais j'aime bien, peut-être que ça me renvoie à quelque chose de mon enfance, je regardais les Simpsons, etc. Et je trouve que c'est ce que Matt Groening sait faire, il le fait, mais c'est vrai qu'il est sur Netflix, il est à une autre époque, il aurait peut-être pu
justement, en étant sur Netflix, on pouvait attendre qu'il
plus
prenne...
Plus de risques, voilà, effectivement. On finit quand même, dernier changement de style et de diffuseur pour cette émission, bilan de l'été 2018, disons quand même un petit mot de ce qui a été un des événements hexagonal, fin août, le lancement d'Un si grand soleil, le feuilleton quotidien de France 2. Là aussi, on va en reparler plus longuement, ça sera dans 2 semaines, dans un épisode déjà. J'arrête. Vous avez donc le programme de ce mois de septembre, c'est pratique, mais quand même un mot ou deux rapidement sur cette série, Émilie. Est-ce que c'est à peu près ce qu'on attendait, ou pire, ou mieux ?
J'attendais rien du tout, donc voilà.
Non, mais ce qu'on peut attendre de ce genre de série ?
Je ne sais pas ce qu'on peut attendre de ce genre de série. Je dois signifier mon incompétence crasse en la matière sur les soaps daytime, particulièrement français. Pour ce que j'en ai vu, en tout cas, la première semaine, je trouve que c'est une mécanique bien huilée. Le récit avance, ça roule. Après, je n'y vois aucun intérêt artistique. Voilà, y a dans le thème, dans le traitement, dans les personnages, je n'y vois rien de neuf. En tout cas, je ne vois pas ce que ça apporte de plus. L'intérêt que j'y trouve, il est plutôt industriel, puisque ça oblige une certaine industrialisation, un gros mot, de la production, de l'écriture, de la réalisation de séries françaises, qui est un des défauts de la France en matière de séries.
Voilà. Évidemment, ça sera partie du débat dans 2 semaines, et que Elle marche, que Plus belle la vie marche, que Demain nous appartient marche, ça tend à prouver que ça peut être un moteur pour l'industrie.
C'est quand même très très différent, moi je trouve, de Plus belle la vie.
C'est plus proche de Demain nous appartient.
Oui, on a l'impression d'être sur du TF1, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aucune surprise. Au moins, Plus belle la vie, je sais que c'est très critiqué, mais ça prend des risques. Il y a quand même des thèmes sociétaux qui sont abordés. Le problème, c'est que la distribution n'est pas égale. Il y a des acteurs qui sont plus ou moins bons dans Plus belle la vie. Mais il y a quand même des surprises. Il y a aucune surprise. C'est-à-dire que moi, j'ai vu en effet la première semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment, c'est exactement ce à quoi on s'attend de A à Z, de la première à la dernière minute.
En tout cas, c'est pas trop mal produit. C'est ce que c'est, hein, évidemment. C'est peut-être un peu fort, c'est trop dramatisé, c'est du soap, quoi. Moi, ce que j'ai apprécié du peu que j'ai vu, c'est que je me suis dit, ok, bon, voilà, visuellement, ça se tient et ça joue quand même pas trop trop mal dans un cadre comme celui-là.
Plan de drone.
Ouais, voilà.
On retrouve Tintin de.
Ouais, voilà, qui s'occupe de son petit bar.
En Grenache.
Donc, évidemment, c'est pas forcément le genre de série qu'on portera ici. C'est pour ça aussi qu'on va en parler dans deux semaines, nos autres critiques. Mais elles ont un rôle important à jouer et c'est pour ça qu'on en reparlera. En tout cas, Ainsi Grand Soleil, c'est sur France 2 tous les jours de la semaine à 20h40. Chers amis, terminons cet épisode avec quelques recommandations hors tête d'affiche. Vous avez chacune choisi un coup de cœur, une série qui est passée sous les radars. Émilie, à toi l'honneur, tu vas nous parler de Dietland, visible en France sur Amazon Prime Video. C'est parti.
En effet, je reste un peu sur mon obsession de départ, Sharp Objects, avec Dietland. Pourquoi ? Parce que l'auteur, c'est Martin Oxon. C'est le point commun entre les deux. C'est une série qui parle d'une fille en surpoids qui ne s'accepte pas. C'est une comédie noire, intelligente, foncièrement féministe, farouchement féministe. Ça fait toujours du bien à voir. Et je trouve qu'elle a encore plus de relief et encore plus de résonance aujourd'hui, parce que sa diffusion arrive peu après MeToo. Je trouve que c'est une série qui donne vraiment à réfléchir sur la manière dont on envisage le monde, son rapport de soi au monde et sur l'image qu'on a de soi-même. Voilà.
Dietland, c'est donc visible en France sur Amazon Prime Video, c'est AMC aux États-Unis. Eric, toi, tu votes pour Crime Time, rien à voir, tout à fait différent, une série remontée à partir d'un format court de Studio Plus, si je dis pas de bêtises.
Exactement, qui est une série en fait française, curieusement, alors que ça se passe au Brésil avec des acteurs brésiliens. C'est l'histoire d'un flic des favelas qui va devenir animateur vedette télé pour une émission criminelle où il présente des crimes, et en fait c'est lui-même qui commanditait les crimes pour pouvoir filmer les images qu'il allait diffuser.
C'est Jacques Pradel Breaking Bad, quoi.
Voilà, c'est complètement délirant, ça va à toute vitesse, puisque normalement c'était des formats courts qui sont remontés. C'est très très noir, très très sombre, c'est vraiment glauque, mais quand on voit ça, on se dit c'est pas possible, c'est complètement dément, mais en fait c'est tiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est vraiment un animateur qui a vraiment été arrêté, parce que en fait il commanditait lui-même les meurtres qui montrait après dans ses émissions.
Alors Canal+ la diffuse. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen de la voir ou de la revoir, cette série ?
Bah sur Canal, sur.
Ouais. Sur le replay de Canal+. Ouais. Jean-Maxime, non, je vais y aller d'abord. Tiens, je te laisse conclure. J'ai pour ma part opté pour Lodge 49, on va le faire en français, ou Lodge 49. Un drôle de drame dans une Californie de la loose au sein d'une confrérie pas vraiment secrète où vient échouer un surfeur dépressif. C'est assez déconcertant comme série. Ça pourrait être très très chiant, mais ça finit par être absolument attachant, touchant et doucement comique. On tient de temps en temps des petites séries, je mets des guillemets à petites, qui nous prennent sans crier garde. Celle-ci en fait partie. Elle est diffusée sur AMC aux États-Unis. Il n'y a pas encore de diffuseur français à ma connaissance. C'est pas simple comme série. C'est pas la plus abordable parce qu'il y a un faux rythme. J'ai voulu penser à John from Cincinnati à un moment, mais c'est pas aussi surréaliste que John from Cincinnati. Mais on est dans ce genre de série qui aurait pu durer une demi-heure par épisode. Ça aurait été pas plus mal, peut-être. C'est des fois un petit peu long, mais ça joue bien et c'est étonnant. Et on se met à la regarder et des fois on sait pas pourquoi. Mais plus les épisodes passent, plus on comprend pourquoi on la regarde. Et donc, Jean-Maxime, je te laisse conclure. Tu as souhaité revenir sur une série de la fin du printemps, mais comme elle s'est finie cet été, on va dire que ça marche. Ouais. Succession.
Succession, donc diffusée sur HBO et OCS en France. C'est une série entre Shakespeare et Dynasty, on va dire. Ça raconte l'histoire d'une riche famille implantée dans les médias. C'est un peu les Murdoch, voilà. Une version des Murdoch. C'est extrêmement cynique. C'est très drôle, malgré le sujet qui pourrait paraître déjà vu et un peu chiant, surtout à l'ère Trump où on parle beaucoup de ce genre de famille. Au contraire, c'est très très drôle, très amusant, ça passe à une vitesse folle. Ça dit quand même beaucoup de choses aussi sur la société américaine en passant. Voilà, je vous la conseille. Il y a de très bons acteurs, beaucoup de gens qu'on connaît peu, à part Brian Cox, mais des vraies révélations.
Et c'est donc à rattraper sur OCS Go aussi. Et saison 2, il y aura une saison 2 sur HBO, donc voilà, à suivre. Et ce sera le mot de la fin de cet épisode 65 de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Binge Audio. Merci à Émilie Semiramod de Vanity Fair, à Eric Bouche de Téléstar et à Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Merci aussi à Quentin qui était à la technique aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur l'état de l'animation adulte. Je ne parle pas des parodies X de Dragon Ball, mais des Simpsons, de Rick et Morty, de BoJack Horseman et de Désenchanté, évidemment, on en a parlé aujourd'hui. Ces œuvres qui vont plus loin grâce au dessin. D'ici là, redécouvrez célébrer les joies de nos profils sur Twitter et Facebook et likez-nous. On a tellement besoin d'amour numérique. Allez, salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one. Whoa, wait. That's the last one.